C'est un grand plaisir d'accueillir cette fois un collègue français, Christophe Pébart, dont vous voyez la filiation à l'écran. Christophe est maître de conférence HDR à l'Université de Bordeaux. Il a soutenu, il y a déjà quelque temps, une thèse qui est devenue un livre, un très beau livre, intitulé « Cité, démocratie et écriture, histoire de l'alphabétisation d'Athènes à l'époque classique », publié en 2006. Et en 2011, donc, il a soutenu une HDR qui comptait un mémoire inédit, hein, c'est l'exercice qui veut ça, et ce mémoire s'intitulait, un très joli titre, « Les Grecs croyaient-ils à leur économie ?» Une espèce de clin d'œil au « Les Grecs croyaient-ils à leur mythe de Paul Vein ?»« Les Grecs croyaient-ils à leur économie ?» Mais c'est surtout le sous-titre qui m'intéresse ici, « Imaginaire, droit et marché » à Athènes, à l'époque des sophistes. Et c'est assurément, je pense, au croisement entre imaginaire, droit, mais aussi politique, que Christophe et moi avons commencé à nous écrire. Et donc, on se rencontre pour la première fois. Mais c'est une manière de concrétiser cet échange. Alors, dans un autre temps, on aurait dit épistolaire, comment doit-on dire aujourd'hui courriélique que nous avons entrepris. Et donc, voilà, c'est un plaisir d'accueillir Christophe pour justement, en parallèle à ce que Josine vient d'évoquer sur le plan de la citoyenneté, surtout classique, voir un peu les antécédents de cette place des dieux aussi dans la cité naissante et comment tout cela se met en place. J'ajouterai, avant de laisser la parole à Christophe, parce que c'est un service à la communauté dont je connais les exigences, que Christophe Pébart a aussi dirigé la revue des études anciennes à Bordeaux pendant de très nombreuses années. Et connaissant les contraintes de ce genre de travail, je me plais à le souligner. Christophe, c'est à vous.
Merci beaucoup. Merci à Vinciane Pirenne-Delforge pour ses propos. Toujours un peu trop louangeur, mais bon, c'est sans doute l'exercice. Bon, je n'aurai pas trop aujourd'hui à critiquer mes collègues, puisque ça a déjà été fait. Donc, Et bien qu'étant bordelais et assez corporate, je ne discuterai pas des sujets de citoyenneté aujourd'hui. Donc cette intervention s'inscrit dans une recherche historique consacrée à la démocratie athénienne. La première étape de ce travail a consisté dans l'analyse de ce que pouvait être ce régime politique au moment où il s'est instauré au Ve siècle. Elle débouchera sur la publication d'un livre au mois de mai prochain qui s'appelle « Athènes, l'autre démocratie ». La deuxième étape requiert de reconstruire les conditions sociales de possibilité d'une telle innovation. J'insiste bien sur la notion de conditions sociales, puisque dans mon vocabulaire, ça ne veut pas dire quelque chose qui serait à côté de la culture, à côté de l'économie ou à côté de la politique, mais quelque chose qui relève de ce qui se passe dans une société, de ce qui la structure et qui rend possible quelque chose, que ce soit de la politique, de l'économie, de la culture, ou même ce que nous appelons dans notre vocabulaire quelque chose qui relève du social, hein. Donc j'insiste bien là-dessus, je nomme social ce qui, au fond, correspond à la totalité, donc à ce qu'on appelle en sociologie un monde social. Souvent en français, c'est compliqué quand on essaye d'expliquer ça, parce que très facilement, quand on entend social, on imagine qu'il y a d'autres catégories à côté, hein, en particulier économie, culture, donc ce n'est pas comme ça que je raisonne. Donc mon objet à moi, c'est dans cette deuxième étape de ma recherche, c'est de comprendre les conditions sociales de possibilité de la démocratie, hein. Et donc, évidemment, on voit très bien comment, et je l'assume, la perspective peut être assez facilement de retrouver le miracle grec, hein, avec donc le titre qui semble indiquer une manière de revenir, hein, à la question de savoir si la politique est née en Grèce ou ailleurs. Alors, évidemment, on peut commencer à s'inquiéter d'entendre bientôt une énième célébration, hein, pour mieux fêter la civilisation européenne et implicitement délégitimer le reste du monde. Faut-il oublier la situation sociale des femmes, l'esclavage ? Si j'exprime ces questions, c'est parce qu'elles existent, et même qu'elles existent de plus en plus entre nous, dans les communautés académiques, alors sans doute beaucoup plus outre-Atlantique, mais elles commencent déjà à exister chez nous, et qu'il faut après tout qu'on les assume, et qu'on assume les avoir en tête, parce qu'elles existent. Alors, il est vrai que dès qu'on parle de politique et de Grèce ancienne, hein, on a immédiatement l'idée du lien, de l'articulation avec notre civilisation, hein, ce qui a fait dire à Marcel de Tienne que c'était nos Grecs, puisque c'était les nôtres, qu'on pouvait se les approprier, puisqu'on pouvait établir un lien quasi direct de filiation entre eux et nous, hein, ce qui faisait des Grecs, des autres, à jamais différents des autres, justement, puisque ce sont les nôtres, à nous. Hein. Donc vous connaissez sans doute l'une de ces formules. Oui, c'est pas celle-ci que j'ai choisie. Pourquoi la Grèce? Pourquoi les Grecs? Les experts ont répondu en 10 langues et en 100 livres. Parce que les Grecs, les premiers, disent-ils, ont eu le goût de l'universel, parce qu'ils ont inventé la liberté, la philosophie et la démocratie, parce qu'ils sont à l'origine de l'esprit même de notre civilisation occidentale. Hein, évidemment, là, il ne cite pas politique, mais ça pourrait figurer dans le catalogue, hein, comme étant véritablement à porter au crédit des Grecs. Alors, donc vous voyez la difficulté, mais cette difficulté, nous devons non pas l'écarter en disant que ce serait mettre de l'idéologie ou de l'actualité dans nos recherches, mais essayer de comprendre pourquoi nous ressentons ce que Pierre Vidal-Naquet a appelé naguère l'inquiétante familiarité du monde grec, c'est-à-dire cette façon que nous ressentons souvent de les connaître déjà avant même de les avoir rencontrés. Alors, dans le domaine qui m'intéresse aujourd'hui, donc celui de la politique, vous avez cette première citation, hein, qui rappelle une évidence, mais que je trouve juste de rappeler, c'est que bon nombre des mots que nous utilisons pour parler de politique viennent directement du grec. Et donc, le mot, d'ailleurs, lui-même, de politique, vient, comme tout le monde le sait ici, du grec. Donc, vous voyez, y compris dans notre langue, nous avons déjà un lien particulier avec les Grecs, puisqu'ils semblent nous avoir fourni nos catégories d'analyse, c'est-à-dire les catégories que nous utilisons pour les penser eux-mêmes. C'est donc une difficulté que nous avons rencontrée. Alors, bien sûr, une des solutions peut consister à se mettre à distance de ce vocabulaire pour essayer, notamment en recourant à l'approche comparative, pour essayer de mettre à distance cette familiarité qui pourrait entraîner des confusions entre nous et eux. C'est ce qu'a tenté de faire Marcel de Tienne. Hein, donc je ne vais pas égrener tout ce qu'il a écrit sur le sujet, bien sûr, comparer l'incomparable. Et puis surtout, dans le domaine qui nous intéresse, le recueil paru dans la revue Le Genre Humain, hein, qui veut prendre la parole, dans lequel il applique cette démarche à la politique. Et vous avez donc une deuxième citation qui vient de ce volume, hein, qui résume un peu comment Marcel de Tienne essaye de se sortir de cette difficulté, hein, en mettant à l'écart le vocabulaire de la politique, voire même de la démocratie, et en préférant l'idée du « s'assembler », hein, comme il l'écrit ici, donc en disant « ben voilà, si je regarde les différentes manières de s'assembler, de prendre la parole collectivement, je n'aurai plus à discuter à l'infini de la politique en ayant toujours les Grecs avec moi, mais je pourrais ainsi élargir le regard et m'intéresser à d'autres expériences socio-historiques qui ne sont pas nécessairement occidentales ou en lien direct avec nous. » Mais vous voyez tout de suite dans la définition, bon, outre le côté un peu humoristique que j'aime bien chez De Tienne sur la démocratie, mais vous voyez que malheureusement, si j'ose dire pour lui, au bout d'un moment, vous voyez, l'Assemblée, on peut se dire que c'est parfait, mais tôt ou tard, on revient toujours, hein, à des choses qui vont être finalement une manière de ne pas utiliser le mot politique pour dire la même chose. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans la citation, il remplace la politique par les lieux du politique. Alors, je n'ai jamais compris cette fascination pour trouver le mot politique plus noble quand il est mis au masculin, mais peut-être que nous pourrons en discuter. Hein, mais c'est une manière de toujours. Alors, dans notre langue, c'est différent, mais en français, j'ai du mal à comprendre souvent la distinction entre le politique et la politique, sinon qu'elle semble donner une sorte de noblesse particulière à l'objet quand il est au masculin. Hein, vous vérifierez, en tout cas, dans le vocabulaire journalistique, c'est évident. Hein, dès qu'on dit le politique, c'est important, et la politique, c'est une activité un petit peu moins noble. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est difficile en réalité de s'en sortir uniquement par des jeux de vocabulaire, hein, qui prennent le risque aussi d'éliminer la spécificité de l'objet qu'on entend étudier, puisque la comparaison a beaucoup d'avantages, et il n'y a pas d'histoire autre que comparative, comme l'a dit le grand Marc Bloch, mais mine de rien, nous avons aussi à saisir la singularité des expériences socio-historiques que nous voulons étudier. Et donc, à force de les noyer dans une approche comparative généralisée, le risque devient de ne plus saisir la particularité de l'objet que nous étudions. Hein. Alors, on voit bien, ça peut être soit pour des raisons de démarche, la comparaison, et ou pour des raisons idéologique ou politique consistant à se mettre à distance d'une vision beaucoup trop européo-centrée, occidentalo-centrée, ou tout ce que vous voulez. Hein. Alors, donc, ça m'a amené à considérer qu'il fallait dire quelques mots du miracle grec et d'essayer de voir la place que cette approche-là occupe dans l'historiographie. Pour le dire autrement, est-ce que cette place est si centrale ou est-ce que finalement c'est un héritage assez ancien venant de Renan ? Alors, je vous ai mis une petite citation donc, de Renan, c'est moi qui ai mis, j'ai marqué « je souligne ». Alors, donc, vous savez que cette expression donc, vient de son texte « La prière sur l'Acropole », publié dans la Revue des Deux Mondes le 1er décembre 1876, et qui a ensuite été intégrée au « Souvenir d'enfance et de jeunesse » en 1883. Ce texte a eu énormément de succès, donc voilà, je ne vais pas rentrer, mais je m'intéresse à ce que dit cette citation, et donc vous le voyez, j'ai mis en gras ce qui était le plus intéressant, c'est donc l'idée de la singularité. Donc le miracle grec, c'est la singularité, c'est-à-dire c'est ce qui ne s'est passé qu'une seule fois. Bien entendu, ce qui s'est passé qu'une seule fois ne veut pas dire que ça ne peut pas se reproduire ailleurs, mais en termes d'originalité, ça s'est passé d'abord là et pas ailleurs. Voilà, sinon ça n'aurait strictement, évidemment, aucun sens. Donc, pour Renan, il y a, on le voit dans la citation, deux miracles, hein, celui du monothéisme avec le judaïsme et donc celui de la politique, de la beauté, etc., avec les Grecs, et avec Athènes en particulier. Alors, c'est le point de départ, hein, on peut dire, d'une réflexion de nombre d'historiens et d'historiennes, mais en l'occurrence plutôt d'historiens, du moins dans ceux que je vais citer aujourd'hui, pour essayer de se dégager de ce prisme, dont aujourd'hui on voit assez bien le caractère un peu outré ou, disons, marqué par l'époque dans laquelle Renan se trouvait. Je ferai au passage remarquer que c'est toujours plus facile de moquer les effets de l'époque sur ceux qui vivent dans des époques précédentes que d'essayer de comprendre ce que l'époque actuelle fait sur nous, hein, qui serait, peut-être nous ferait gagner du temps plutôt que de tomber dans la critique systématique avec 50 ans d'écart, parce que c'est toujours beaucoup plus facile. Alors, dans l'historiographie, j'ai essayé donc de regarder, dans tous ceux qui s'étaient intéressés à la naissance de la politique, la place que les divinités, les croyances pouvait avoir. Hein. Donc ça va de soi, je ne l'ai pas dit, mais je vais, moi, m'intéresser plutôt au début, et donc, alors même s'il y a des débuts différents, mais disons, avant la période traitée par Josine Bloch tout à l'heure, donc plutôt à l'époque archaïque, pour faire vite, et en gros, avant Clistène. On peut dire que Clistène est vraiment le terminus de l'histoire que je discute ici. Alors, bien sûr, il faut ici dire quelques mots de Louis Gernet et de Jean-Pierre Vernant, hein, ne serait-ce que en raison du recueil publié en 1983, donc après la mort de Gernet, longtemps après la mort de Gernet, préfacé par Jean-Pierre Vernant, qui s'appelle « La Grèce sans miracle ». Hein, donc, évidemment, le titre a valeur un petit peu de manifeste, hein, et semble ainsi indiquer que la volonté de Gernet comme de Vernant consiste à, au fond, se mettre à l'écart de ce miracle, hein, et tout ce qu'a accompagné, au fond, la trajectoire qu'on appelle couramment l'anthropologie historique, hein, qui a essayé justement d'éviter ce prisme occidental, et qui en même temps aussi, mais je ne vais pas y rentrer ici, correspond à des jeux de contingence, aussi de position historique entre la Sorbonne, le Collège de France, l'HESS. Hein, il y a aussi des jeux de position qui sont très bien décrits, d'ailleurs, dans les mémoires de Pierre Vidal-Naquet, dans le tome 2, hein, qui l'explique très, très clairement. Mais évidemment, ce n'est pas parce que c'est un jeu de position qu'il n'y a pas de contenu et qu'il n'y a pas d'éléments intéressants à discuter. Alors, dans la préface que Jean-Pierre Vernant donne à ce recueil, oui, il y a une citation que j'ai mis donc, un peu plus bas. Sur la civilisation grecque, vous voyez, donc, un événement singulier de l'histoire humaine, donc vous voyez que vous retrouvez l'idée, quand même, de singularité, hein, donc elle n'est pas évacuée, alors même que le recueil s'appelle « La Grèce sans miracle », mais peut-être la différence, c'est ce que Jean-Pierre Vernant appelle « la pure contingence », un jeu complexe de conditions qui auraient pu ne pas se rencontrer, donc ce qu'il semble considérer comme étant à mettre à distance dans le miracle grec, c'est ce qui relèverait de ce qu'on va appeler une forme de déterminisme. Hein, c'est-à-dire que l'idée que c'est parce que ce sont les Grecs qu'ils ont inventé la politique. Hein. Mais malgré tout, avec l'idée de contingence, vous voyez qu'on n'échappe pas à la notion de singularité. Et qu'on est quand même, y compris dans la lignée de Vernant et Gernet, amené à s'interroger sur la notion donc, de singularité, Vous voyez qu'on la retrouve. Alors on comprend bien, grâce à Werner Gernet, ce que sans doute il faut mettre à l'écart de l'idée de miracle, hein, l'idée que c'est quelque chose précisément de miraculeux, mais en revanche, il garde et conserve l'idée de singularité. Alors quand on regarde les travaux de Louis Gernet, dans ce recueil d'articles, en particulier un long papier qui s'appelle « Les débuts de l'hellénisme », qui a été d'abord publié dans les Annales en 1982, puis ensuite intégré dans ce recueil l'année suivante, en 83, eh ben on va retrouver même chose, de manière assez claire. Je le cite, « C'est une évidence historique que cette attitude, donc c'est une manière de se comporter par rapport aux autres, ce comportement intellectuel est apparu d'abord en Grèce, et de la Grèce est transmis à nous. » Louis Gernet. Donc vous voyez bien que dans un volume qui s'appelle « La Grèce sans miracle », vous avez des éléments qui composent le miracle grec, y compris de la manière la plus classique. Qu'on s'entende bien, je dis, c'est pas une critique, c'est de l'ordre du constat, hein, c'est pour essayer de comprendre le sens que ça peut avoir de se mettre ou non à distance du miracle grec, et parfois de ne pas confondre une proclamation « je ne crois pas au miracle grec » et les conceptions que l'on peut par ailleurs défendre. Donc, ceci étant, chez Gernet, on trouve quand même une approche qui essaye de rendre compte de cette singularité. Et cette singularité, il va la trouver dans ce qu'il appelle le milieu social. Et c'est ça qui est très intéressant dans cet article. Et on y retrouve évidemment le compagnonnage long, hein, que Gernet a entretenu avec les Durkheimiens, puisque vous le savez sûrement, Louis Gernet a fait partie des premiers Durkheimiens, a publié de nombreux comptes rendus dans l'année sociologique, et dans sa thèse publiée en 1917, dès la préface, il dit « la langue est un fait social », ce qui à l'époque est vraiment l'oriflamme du durkheimisme, et il dit « je suis un Durkheimien ». Hein, donc c'est quelque chose qui a beaucoup compté, c'est une dimension, je n'y reviens pas ici, qui souvent a été affaiblie, parce qu'on préfère Mauss et on préfère s'orienter vers l'anthropologie, sans doute portée par l'influence qu'a eue Claude Lévi-Strauss dans cette relecture des sciences sociales en France, mais Gernet est authentiquement un Durkheimien, en tout cas il le dit au début, et ce n'est pas uniquement une manière de parler, ça correspond aussi à son approche d'un certain nombre de problèmes. Bon. Donc, il nous invite, lui, à regarder, donc, c'est en ce sens-là que l'idée de continuité est intéressante par rapport à la comparaison, vous voyez bien ce que j'essaye de faire, parce que si je compare s'assembler, comme propose De Tienne, je vais voir des choses, mais l'approche que propose Louis Gernet, c'est qu'il nous invite à essayer d'établir, enfin, de comprendre la continuité, c'est-à-dire d'où ça vient et pourquoi c'est là, et donc, en sociologue, il est obligé de constater que le problème que tout sociologue se pose, enfin, en particulier ceux qui font de la sociologie historique, c'est comment une nouvelle société naît d'une autre société précédente. Et c'est donc ça qui intéresse Louis Gernet, c'est ce qu'il essaye de faire apparaître. Et dans les spécificités qui, pour lui, composent donc les Grecs de l'époque classique et ultérieure, le premier élément qu'il cite, c'est la politique, qu'il définit, au fond, de manière assez classique, comme étant l'organisation de la cité, le gouvernement des hommes par les hommes. Mais on y retrouve déjà cette idée que ce gouvernement des hommes par les hommes n'est possible parce qu'une séparation serait intervenue entre la politique et la religion. Et donc, alors vous voyez, là, c'est les dangers de croire que notre monde est l'héritier du monde précédent, parce que évidemment, nous y retrouvons nos petits, en particulier les Français, hein, où on se retrouve avec, finalement, notre conception de la laïcité toute trouvée, avec, donc, la politique qui est forcément sans les dieux, et les dieux qui sont un peu ailleurs. À côté, ils sont toujours là, mais dès qu'on fait de la politique, les dieux sont ailleurs. Hein, donc, vous voyez comment le prisme de nos catégories, de nos conceptions, nous, non pas nous poursuivent, mais nous alimentent, nous font réfléchir, raison pour laquelle, vous voyez, on n'échappe pas à l'idée qu'il faut se connaître soi et le monde dans lequel on est pour pouvoir faire de l'histoire. Hein, parce que, il faut prendre conscience de ça, c'est souvent très difficile, et puis personne n'y arrive véritablement. Donc, on est obligé de se confronter et parfois d'être critiqué par ses propres collègues pour pouvoir prendre conscience des attaches qu'on peut avoir et qui nous paraissent tellement évidentes qu'elles ne méritent pas discussion. Donc, cette idée d'une séparation entre politique et religion, vous allez la retrouver, je ne développe pas parce que c'est beaucoup plus connu, dans, évidemment, le maître, un des ouvrages très, comment dirais-je, qui a beaucoup fait parler de lui, de Jean-Pierre Vernant, « Les origines de la pensée grecque », où vous retrouvez exactement le même modèle, avec l'idée qu'au fond, même s'il y a de la religion, on y écarte le mystère, donc il y a de la religion, mais celle-ci est prise dans un effort ou un processus de rationalisation et de rationalité qui fait que le mystère étant évacué, bah, finalement, ce qui ferait de la religion grecque une religion a été un peu mise à l'écart. Donc elle peut être là, on peut l'étudier, mais de toute façon, comme elle est prise dans un procès de rationalisation, au fond, on n'est pas embêté par elle et on n'est pas obligé de changer de définition de la politique. Alors chez Vernon, on va trouver aussi quelques idées qui relèvent d'une forme de mentalité des Grecs, l'agone, bien sûr, l'héris, hein, tout ce qui relève de la lutte, avec l'idée donc que la politique, ça va être la compétition de discours sur l'agora, hein, puisqu'on met les choses communes au milieu, esmeson, mais tout le monde sait ça, et ensuite, donc, on en discute pour savoir ce qu'il en est. Alors, pour lui, cette émergence donc, de la politique, donc toujours contre la religion, hein, vous voyez bien, c'est une mise à l'écart de la religion, se produirait entre les 8e et 7e siècles. Mais il est frappant de constater qu'il n'y a pas véritablement d'explication. Hein, c'est ce qui est très frappant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le processus se déroule de lui-même. C'est un constat. Il n'y a pas d'explication. Hein. Quand il dit, ben voilà, désormais, on a dit, il n'y a plus de Dieu lorsqu'on parle de politique, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quel moment c'est arrivé. Donc ce n'est pas un processus, c'est un constat. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, hein, mais en tout cas, c'est constaté plutôt qu'expliqué. Dans Les Maîtres de la vérité dans la Grèce archaïque, chez Marcel de Tienne, on va retrouver la même idée. Hein, chez lui, bien sûr, la formule est connue, c'est le procès de laïcisation. Hein, donc lui, c'est carrément l'idée de laïcité, enfin de laïcisation, qu'il va faire intervenir pour expliquer donc l'émergence de la politique, hein, avec l'idée que la parole, ce qu'il appelle la parole magico-religieuse, disparaîtrait, n'aurait plus d'autorité et serait remplacée par une parole, au fond, qui serait donc la parole citoyenne, hein, pour laquelle une égalité serait possible, puisque les individus ne seraient pas triés en fonction de la légitimité extérieure à la police, enfin, ou du moins au-dessus de la police, hein, qui viendrait de la religion. Alors il associe ça beaucoup, hein, j'y reviens pas, à réforme, ce qu'il appelle la réforme politique, hein, avec l'idée donc qu'il y aurait cette égalité au combat, donc rendant caduque en quelque sorte l'idée que quelqu'un serait supérieur à l'autre. Et donc c'est autour, hein, en fait, de la guerre et du modèle guerrier que la politique serait née, je le cite, laïcisée, complémentaire de l'action, inscrite dans le temps, pourvue d'une autonomie propre et élargie aux dimensions d'un groupe social. Hein, voilà ce que c'est que la parole dialogue. Elle est laïcisée, complémentaire à l'action, inscrite dans le temps, pourvue d'une autonomie propre et élargie aux dimensions du groupe social. Hein, donc vous voyez que, finalement, ce qui va être commun, ce ne sont plus véritablement les dieux, mais la parole, hein, qui va être commune, ou du moins commune aux hommes. Alors ça, c'est pour donc cette idée de la politique contre les dieux. Mais ensuite, je vais dire quelques mots de ce qu'on pourrait appeler, au fond, une autre branche de l'historiographie, qui est la politique non plus contre, mais sans les dieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de définir la politique en opposition avec les dieux, les croyances religieuses, etc. Mais on s'en passe directement. Ou, on va voir, on lui accorde une place bien particulière, mais de mon point de vue, seconde. Alors ici, je vais rapidement mentionner quelques travaux. Moses Finlay, par exemple, hein, dans Politics in the Ancient World, traduit en français par l'invention de la politique. J'ai donné le titre anglais, non pas pour faire le cuistre, mais pour bien faire apparaître qu'il n'y a pas invention dans le livre de Finlay, mais Politics in the Ancient World, et qui définit, alors lui, de manière très, très classique, hein, la politique, je le cite, « moyens officieux, aussi bien qu'officiels, par lesquels un État est gouverné, par lequel sont prises les décisions qui concernent l'État, ainsi qu'à l'idéologie qui accompagne ces processus. Hein. » Donc, vous voyez que dans la définition de Finlay, on va y retrouver l'État, l'idéologie. Et quand on continue la lecture de mon livre, le grand moteur de la politique, c'est la lutte des classes. Hein. C'est un livre ouvertement marxiste, hein, qui considère que ce qui va donc être la dynamique sociale à la fois à l'origine de la politique et à l'origine de l'État, c'est la lutte des classes. Voilà, hein. Mais l'intérêt de Finlay par rapport à ça, vous voyez, c'est qu'il intègre ce qu'il appelle l'idéologie. Et donc il invite à considérer la politique, pas simplement comme un jeu institutionnel, mais aussi à intégrer les croyances, les manières de voir, les conceptions du monde, en les intégrant à la définition même de la politique. Alors la réflexion que propose Christian Mayer dans son livre « La naissance du politique » est bien plus ambitieuse. Alors je vous ai cité une définition ici, très marquée par Carl Schmitt. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais dans un de l'article que j'avais consacré au dossier des annales sur la politique, j'ai dit tout le bien, entre guillemets, que je pense de Carl Schmitt et de l'utilisation de Carl Schmitt en histoire, pour ne pas y revenir et vous y renvoyer, si vous voulez savoir ce que je pense de la distinction entre ami et ennemi, le degré d'intensité de l'association et de la dissociation, qui sont des concepts, de mon point de vue, extrêmement délicats, pour ne pas dire plus, d'utilisation. Mais en tout cas, on peut, après tout, pourquoi pas. Donc, ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est que chez Christian Mayer, vous avez une approche finalement sociologique de ce qu'il appelle du politique, puisque c'est ce qui rend compte de l'unité de la communauté. Donc, c'est une. Vous voyez, si on finit, on donne plutôt l'impression de deux groupes qui sont en permanence en train de se battre dans le même ensemble, et que c'est cette lutte qui constitue la politique, alors que chez Christian Mayer, il y a la possibilité de penser une totalité, un monde social dans lequel cette lutte peut avoir lieu. Donc, il associe, autre intérêt du livre, ce qu'il appelle le politique à la démocratie, hein, considérant que pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait du politique, hein, c'est-à-dire une communauté suffisamment soudée pour que quelque chose comme la démocratie se produise. Et évidemment, il accorde beaucoup d'importance à l'isonomie. Alors, mais on va y retrouver, hein, vous voyez, alors là, pour le coup, l'idée aussi du miracle grec, quand même, parce que, pour lui, le politique serait grec d'abord, hein, avant de s'incarner dans une forme sociale particulière, la police, au cours des 7e et surtout 6e siècles. Et il accorde beaucoup d'importance, comme vous le savez sûrement, à Clisthène, au début du 5e siècle, qui est vraiment, pour lui, l'avènement hein, de toute cette période. Donc vous voyez que même s'il brosse un tableau assez large, en réalité, dans l'économie générale de l'ouvrage, je n'insiste pas plus, l'essentiel de l'ouvrage est consacré au 5e siècle. C'est donc quand même, malgré tout, et en dépit du titre, quelque chose qui est sur le 5e siècle athénien, plus que sur la naissance du politique qui remonterait à l'époque archaïque, aux poèmes homériques, etc. Alors, enfin, pour finir ce tableau, et j'y vais vite pour pouvoir parler du reste, il y a trois articles qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps dans les annales, hein, qui, au fond... permettent d'illustrer ces différentes manières de faire l'histoire de la politique et de l'avènement de la politique en Grèce ancienne sans les dieux. Alors le premier, c'est un article de Julien Zurbach qui s'appelle « La formation des cités grecques, statut, classe et système foncier » qui a ensuite a été développé dans un maître ouvrage qui s'appelle « Les hommes, la terre et la dette en Grèce, 1400 avant Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ ». Alors là, vous avez une approche véritablement du matérialisme historique, un marxiste assumé comme tel. Hein, donc, je vous résume vite. L'idée, c'est que ce sont les rapports de production, hein, donc ce qui se passe dans la production matérielle, la production de richesses, qui est le moteur de l'histoire et des différentes dynamiques sociales. Hein, donc là, c'est clairement, c'est dit dès le début, hein, c'est la conception de Julien. Donc évidemment, pour lui, c'est l'accès aux ressources, la terre, qui vont être des éléments fondamentaux, hein, avec la question de l'accès ou non à la propriété foncière, les conflits autour de l'appropriation de la terre, voilà. Donc évidemment, dans son modèle, vous avez strictement pas de dieu, il n'y en a pas besoin, et il les met plutôt à l'écart, puisque pour lui, dans une approche là aussi tout à fait cohérente, il considère au fond, pour le dire d'un mot, que c'est la superstructure, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-dessus, donc c'est du discours en réalité, et ça n'a pas d'importance particulière, et il critique en général assez vertement ceux qui, au fond, utilisent la culture, l'identité culturelle, etc., qui empêcheraient de voir la réalité qui se situe dans les rapports de production. Donc vous voyez, il est marxiste dans son approche, également dans sa manière de lire les articles des collègues. Deuxième article, c'est l'article d'Alain Duplouy. C'est la formation des cités grecques. Donc, j'ai dû me tromper. Ça, c'est le titre de. Bon, je ne sais plus. J'ai me trompé dans mon copier-coller. Enfin, c'est l'année suivante. Je n'ai plus son titre en tête. Donc, Alain Duplouy. Donc là, c'est la citation 6. Donc, lui, son combat, alors c'est à la fois contre Julien Zurbach, mais aussi contre l'idée de statut et contre toute approche juridique. Mais on en a un petit peu parlé avec Josine Bloch tout à l'heure. Et que c'est une réponse hein, à Julien Zurbach. Ça se voit tout de suite, puisqu'il qualifie l'étude de Julien Zurbach d'étude stimulante. Comme vous savez, dès qu'on vous qualifie de stimulant, c'est qu'en général, la suite va l'être beaucoup moins. Alors, il met en avant l'idée de participation, le metekein, et il défend l'idée d'une approche par le bas, hein, l'idée qu'au fond, les groupes se seraient agrégés pour ensuite former la cité. Alors, Toutefois, on peut remarquer que la vraie différence entre Julien Zurbach et Alain Dupuy est plutôt sur la définition de la cité. C'est là-dessus qu'il diffère et que donc il y a aussi, dans l'histoire qui nous intéresse, des enjeux qui tiennent plus à la définition que nous utilisons de la cité ou de la politique plutôt que des commentaires sur tel ou tel document, et des analyses divergentes de la documentation. Il y a un effet de terminologie que je n'ai pas le temps de développer. Disons que malgré tout, à un moment donné, donc cette idée de participation, etc., elle doit, et c'est l'avantage et le mérite du livre d'Alain Dupuy, livre et article, c'est d'essayer de rendre compte, c'est-à-dire d'où elle vient, d'où vient cette coalescence entre différents groupes sociaux, et il va la chercher dans ce qu'il appelle la mentalité agonistique. C'est donc dans la culture et dans la mentalité qu'on trouverait, hein, tout en reconnaissant, bien sûr, que ça peut varier selon les régions, les endroits, etc. Mais c'est, au fond, à la fin, vous avez chez lui une explication qui se résume à de la psychologie. C'est une psychologie, certes, historique ou inscrite dans une période donnée, mais c'est de la psychologie, c'est-à-dire c'est parce que les individus sont ce qu'ils sont qu'ils ont envie. Alors cette approche est critiquée, c'est le troisième et dernier article, par John Ma, hein, toujours dans les annales, 2016, « Élite, élitisme et communauté dans la police archaïque », qui, lui, va chercher à... Alors je vous ai mis une petite... Voilà, citation. Donc vous allez voir que, je vous laisse la regarder, que lui propose une approche beaucoup plus large, en fait. Mais on voit qu'il emprunte un peu à tout le monde, si vous voyez ça. Donc il garde l'idée qu'il y a des groupes sociaux, mais plutôt que de les voir uniquement en antagonisme, hein, il envisage des formes de participation à travers la lutte. Il rajoute des éléments économiques. Hein, vous voyez, il y a aussi des choix économiques, etc. Donc vous voyez, il y a une manière d'essayer de proposer une lecture, je dirais, balancée. Quand je dis balancer, ça ne veut pas dire que c'est celle que je préfère, mais c'est juste pour dire qu'il emprunte quand même aux différentes définitions, hein, avec l'idée de négociation, vous voyez, autour d'un ensemble d'idées et de valeurs idéalement liées entre elles concernant la justice, le mérite, l'égalité, le droit et l'appartenance. Vous voyez que c'est assez étrange, quand on pense aux idées et valeurs qui pourraient fonder la police, de ne pas y voir le moindre dieu, la moindre divinité et le moindre culte. C'est quand même tout à fait révélateur. Mais une fois encore, je pense que c'est pas contre, mais c'est sans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, on n'en a pas besoin pour... cette histoire. Donc vous le voyez, contre ou sans, la naissance de la politique se pense hors de toute prise en considération des croyances religieuses grecques le plus souvent. Au mieux, seuls les rites sont étudiés pour envisager une construction de la cité par le bas, par la sociabilité. Hein, c'est-à-dire que la seule place souvent qu'on accorde à la religion, c'est l'idée qu'avec les cultes, parmi d'autres, sont des pratiques sociales et que ces pratiques sociales créeraient une communauté, hein, à travers des rites communs qui sont faits en commun. Alors, voilà l'idée générale de l'historiographie. Maintenant, je vais en venir pour la deuxième partie de mon propos. Je vais résumer. Donc là, vous avez, je vous les montre juste. En fait, ce que je voulais dire, mais je vais le dire très vite, c'est que sans doute la mise de côté d'Homère et d'Hésiode tient plus à la manière que nous avons a priori de considérer ces textes qu'à une réflexion historique. Hein. C'est à la difficulté d'utiliser des poèmes de cette nature pour faire de l'histoire. C'est vrai particulièrement d'Homère. Donc, vous voyez, je vous ai cité cette phrase de Moses Finlay dans Le Monde d'Ulysse, parce qu'elle me paraît tout à fait intéressante de comment Moses Finlay essaye de lire Homère. Vous voyez, hein, le véritable problème qui se pose à l'historien consiste à déterminer si et dans quelle mesure l'œuvre poétique comporte un lien avec la réalité sociale et historique. Et pure création personnelle du poète. Donc, évidemment, c'est assez surprenant, puisque l'idée d'une pure création personnelle, en plus, du poète, suppose que le poète est un être en dehors de toute société, ne subissant aucune influence de la société dans laquelle il est, et pouvant, en quelque sorte, jouer avec les codes de sa société et ce qu'il aurait envie, lui, personnellement, d'en dire. Hein. Bon, évidemment... avec un tout petit peu de sociologie critique, on voit très bien que c'est un biais bien connu d'introduire notre propre position dans la position de ceux que nous étudions. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes au-dessus de la société que nous étudions, donc nous pensons pouvoir l'encadrer, l'entourer. Vous voyez que c'est un peu le même rôle, hein, qui est donné, mais qui, ici, ne donne pas lieu à une étude scientifique, puisque c'est de la création. Donc vous avez l'autre deuxième idée, c'est comme c'est de la poésie, ça relève plutôt de l'art, hein, donc d'une activité désintéressée, mais qu'a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec la volonté de décrire et d'expliquer le monde dans lequel on vit. Donc ça vous a donné toute une série d'articles que tout le monde connaît, où on essaye d'identifier tel objet dans telle fouille archéologique. Hein, donc on essaye de dépiauter, en quelque sorte, l'Iliade et l'Odyssée pour trouver des éléments qui seraient, eux, historiques, alors que tout le reste est renvoyé à autre chose, à des études littéraires, etc., ou à des spécialistes d'Homère, mais qui n'est pas considéré comme pouvant être une matière historique. Donc, l'idée que je veux définir, enfin, expliquer ici, c'est que je crois que ce n'est pas du tout vrai et que nous pouvons lire les poèmes homériques et hésiodiques comme de merveilleux documents historiques en les prenant en totalité, c'est-à-dire en essayant de les comprendre dans leur totalité plutôt que d'essayer d'en extraire des petits bouts qui correspondraient à des soi-disant réalités historiques venant d'ailleurs. Je pense qu'il y a un effort à faire pour essayer de comprendre ces textes tels qu'ils sont, en gardant à l'esprit ce que Kurt Raffloff a dit à plusieurs reprises, à savoir qu'à partir du moment où il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de traité politique, nous ne devons pas lire ces poèmes comme s'ils étaient de la poésie à côté de traités politiques, de traités religieux, etc. Il faut sans doute accepter la possibilité d'y trouver autre chose que ce que nous avons l'habitude de trouver aujourd'hui dans ce que nous appelons la poésie. Alors si on regarde en gros, il est évident que le monde qu'on arrive à déceler dans les poèmes homériques est assez clairement, enfin du moins à l'époque qui est celle des auditeurs et peut-être des auditrices des poèmes, et ceux et celles qui peut-être les ont lus, c'est un monde de cités. Je vous renvoie bien sûr à l'opposition avec les cyclopes, qui sont clairement cités. On y retrouve, mais on va y revenir évidemment, des querelles pour savoir qui est le meilleur des Achéens. On y a un peuple, mais on voit, par exemple à Ithaque, que l'intervention du peuple n'est pas automatique. Ainsi, lorsque Télémaque convoque l'assemblée pour demander au peuple d'intervenir, le peuple décide que cette affaire n'est pas une affaire du peuple, mais une affaire, comme on dirait aujourd'hui, domestique. Donc vous avez là la trace, vous voyez, d'une politique, ou du moins d'un politique, si on veut, qui se construit et s'élabore, où on n'est pas encore sûr que tel ou tel domaine relève automatiquement de la politique, mais qu'il faut en délibérer ensemble. Et donc là, vous avez un exemple de cette délibération. Mais la menace de l'intervention populaire existe toujours, puisque les prétendants, lorsqu'ils essayent de s'en prendre à Télémaque, expriment la crainte d'une intervention populaire, vengeance, puisqu'ils auraient retourné le peuple d'Ithaque contre eux. Donc on voit que c'est jamais défini, ça peut toujours être rediscuté. Donc vous voyez, il y a de la politique dans les poèmes homériques et hésiodiques, et je vais maintenant m'intéresser à un texte que je continue d'adorer, toujours, qui est donc, alors c'est d'abord dans le champ 23 de l'Iliade, mais en particulier la course de chars, donc la première épreuve des jeux funéraires en l'honneur de Patrocle. Je vous ai fait une citation de Philippe Rousseau, qui a beaucoup travaillé jusqu'à y consacrer un maître ouvrage, la course de chars, où il dit « Voilà, forme par son ampleur et la netteté de sa construction un tout dont on a généralement admiré la composition, même s'il y a relevé des obscurités, des incertitudes, des incohérences. » En fait, ce texte, je vais aller vite, mais je vais vous en montrer quelques éléments, à partir de la traduction donc, de Pierre Judé de Lacombe, est un texte qui, au fond, montre la puissance de l'Iliade et comment, en fait, ce texte ne peut pas être compris sans tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, il est totalement inscrit dans le reste de l'Iliade. Alors, c'est évidemment un texte, moi, qui m'intéresse, qu'il est souvent cité comme l'exemple de la mentalité agonistique. Vous vous rappelez, on cite très souvent le chant 23 de l'Iliade, la compétition sportive, donc, qui témoignerait du goût prononcé, au moins des basileis, pour la compétition. Alors, on va voir ce qu'il en est. Et tout de suite, on va voir le plus drôle, si j'ose dire, c'est que, là, on va voir qu'en réalité, il n'y a pas de compétition dans ce texte. Il y a au contraire tout ce qu'il est possible de faire pour éviter les effets néfastes de la compétition sur l'ordre social. Alors d'abord, je vous rappelle le début, vous l'avez ici, donc vous avez Achille qui va donc poser les différents prix. Donc vous voyez, a priori, on est vraiment dans une ambiance finale de C1 football, donc on met la coupe, tout le monde la regarde, et une seule équipe va la remporter, donc on est dans, au fond, une scène de compétition qui nous paraît tout à fait naturelle et habituelle, avec des rangs, le premier, le deuxième, moi je vous dis au revoir. Puis ensuite, il prend la parole, alors c'est là où ça commence à se corser. Voilà, il va dire, alors c'est dans la deuxième partie, voilà ce qu'il dit, oui, c'est très sympa pour commencer la compétition, donc il dit voilà, si nous, Achéens, donc il parle de lui, Achille, concourions pour un autre, donc pour un autre jeu, voilà ce qu'il dit, je gagnerai ceux du vainqueur et les emporterai chez moi, vous savez que la valeur de mes chevaux les met au-dessus de tout, ils sont immortels, Poséidon les a offerts, etc. Donc vous voyez que la compétition commence de manière assez étrange, puisque Achille annonce que tout le monde sait très bien que s'il avait participé à cette compétition, il aurait gagné, non pas parce qu'il est Achille, mais parce que ses chevaux sont immortels et donnés par les immortels. Et vous allez voir que vous allez retrouver cette cette idée, au fond, lorsque les différents protagonistes vont se présenter. En fait, vous allez avoir, dans la présentation de ceux qui s'élancent pour participer, vous allez avoir des critères qui vont vous indiquer à l'avance la place que ces individus devraient occuper. Alors, ils sont de deux natures. Là, les chevaux, comme l'a dit Achille, et donc on voit bien qu'il y a une idée de force pure, hein, puisque Achille, vous le savez bien, est associé à l'idée de force pure, à l'habier dans l'Iliade, hein, c'est l'homme de l'habier, par opposition à Ulysse, qui est l'homme de la métisse. Vous connaissez tous ce conflit fondateur entre l'habier et la métisse, au point que dans l'Hippias mineur, c'est le début du dialogue de Platon, les protagonistes commencent par la question « Alors, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est l'habier ou la métisse ?» Et ils parlent de l'Iliade et de l'Odyssée, donc témoignage que cette lecture s'est prolongé très très longtemps. Donc, on a un premier qui s'élance, Eumèle, seigneur des hommes, qui brillait par sa science des chevaux. Alors lui, vous voyez qu'il fait intervenir un autre critère, qui n'est pas la force intrinsèque des chevaux, mais le maniement des chevaux. Donc, ce qui relèverait d'une forme de métisse, si on veut, hein, une manière, une science. Ensuite, vous avez Diomède. Vous voyez que lui aussi, on lui met des chevaux particuliers. Je ne vais pas faire toute la liste, mais vous le voyez, si vous continuez, hein, vous regardez rapidement, vous verrez qu'à chaque fois, on a une explication qui déjà nous laisse deviner la place que le personnage doit avoir à la fin de la course. Donc oui, c'est assez curieux, puisque toute la présentation, elle est quasiment dans l'ordre. À la limite, on peut admettre une possible ex-aequo entre Mel et Diomède, puisqu'ils ne sont pas sur le même terrain, mais qu'ensuite vous déroulez, hein, vous voyez que tout est prévu jusqu'au pauvre Mérion, qui, lui, ne va pas avoir une place, puisque lui, on dit juste, alors où c'est qu'il est, Ménélas, parce que je ne le trouve pas, bon, je ne vais pas le trouver, mais lui, on dit juste, voilà, il avait des chevaux, et puis terminé. Donc, lui, il n'a pas le droit, on voit déjà que le pauvre Mérion, ce n'est pas sa compétition à lui. Bon. Alors, c'est Michel Foucault, hein, dans son cours « Mal faire, dire vrai, fonction de l'aveu en justice », cours de Louvain en 1981, qui m'a suggéré cette lecture, parce que c'est lui qui dit, finalement, c'est très étrange, cette course. On croit y trouver une épreuve, donc la mentalité ergonistique, et en fait, on y voit tout autre chose, plutôt un exercice qui tend à reproduire, comme on dirait en sociologie, les positions sociales préalables à l'épreuve. Voilà. Alors, on garde ça en tête, même si on va voir que cette course, c'est pour ça qu'elle nous intéresse, elle va dysfonctionner, et elle dysfonctionne très rapidement. Alors, pour être sûr de cette hypothèse, j'ai fait ce que Michel Foucault n'a pas fait, mais ce n'était pas son objet, hein, donc ce n'est pas, là encore, pas une critique. Et aujourd'hui, je suis très consensuel. Donc j'ai regardé tous les jeux. Je me suis dit, est-ce que ce que dit Foucault marche pour les autres jeux? Voilà. Alors il y a plusieurs épreuves. Donc vous avez la boxe, la lutte, la vitesse, l'épée, le lancer, le tir à l'arc, la lance. Et à chaque fois, je vous invite à regarder si vous voulez, vous allez retrouver le même schéma, jusqu'à des ex-aequos. C'est-à-dire, à certains moments, on arrête, par exemple dans la lutte, c'est Ulysse et Ajax, l'habier et la métisse, personne ne veut savoir qui l'emporte, le combat est interrompu et on dit ils sont ex-aequos. Donc c'est assez intéressant que ce texte-là soit utilisé comme étant la démonstration d'une mentalité agonistique, alors que vous avez des ex-aequos, on arrête la compétition, enfin, en tout cas, on n'y retrouve pas tout à fait ces petits quand on regarde. Je ne développe pas, mais vous pourrez vérifier, ça marche, de mon point de vue, assez bien. Donc, vous voyez que la présentation de la course nous laisse déjà l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, vous avez le discours de Nestor, qui va parler à son fils, Antiloque, et qui va lui donner des conseils. Alors, après tout, pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant, c'est que les conseils qu'il lui donne ne vont pas du tout être suivis par Antiloque, donc on peine à comprendre quelle est la place de ce discours dans le récit. On va y revenir à la fin. Et puis, évidemment, par rapport à l'idée même d'une mentalité agonistique, se pose la question de l'intervention des dieux pendant la course, puisque Apollon puis Athéna interviennent dans la course et affectent grandement le déroulement de la course. Puisque le fameux Eumèle, qui était le premier à s'élancer, donc potentiellement vainqueur, lui, Athéna, elle détruit son char. Et il arrive, dernier, ensanglanté, sur la ligne d'arrivée. Donc vous voyez que là, c'est Athéna qui est directement responsable. On verra comment, au fond, pourquoi cette intervention et le sens qu'elle peut avoir, ce qu'elle nous dit précisément de la question de la naissance de la politique. Alors, comme il y a une épreuve, de chars, ils vont tirer au sort, et donc le tirage au sort, je ne sais plus si je l'ai par là, mais comme l'heure tourne, je ne voudrais pas déborder de trop. Donc on tire au sort, et le tirage au sort se passe de manière curieuse, puisque le premier Je crois que c'est Antiloque, ensuite Merlion. Enfin bref, on ne retrouve pas le classement. Or, vous avez un exemple de tirage au sort que peut-être vous connaissez au livre 7. C'est lorsque 9 Achéens se proposent pour combattre Hector. Et là aussi, on va tirer au sort. Et on voit bien ici que tout le monde attend ce qui va d'ailleurs se produire. C'est la désignation du bon premier, à savoir Ajax, fils de Télamon, qui, en l'absence d'Achille, est souvent le meilleur des Achéens en concurrence avec Diomède. Et d'ailleurs, dans le texte, ils disent... Les Achéens qui étaient là se demandaient si ce serait, enfin souhaitaient que ce soit ou Diomède ou Ajax. Et donc on voit que le tirage au sort, au fond, accompagné par les dieux, bien entendu, parce que c'est une prière, est censé, au fond, reconnaître le meilleur. Donc le tirage au sort ne se passe pas du tout comme prévu. Et puis ensuite, donc, vous avez la course. Alors évidemment, par rapport à d'autres interventions de dieux, il y a quelques éléments bizarres. Donc, vous voyez, le tirage au sort, déjà, il ne se passe pas comme prévu. Il semble que. Ça, on n'a pas l'ordre qu'on attendrait. Normalement, on aurait soit Eumel, soit Diomède, et puis ensuite l'ordre prévu. Et là, on trouve un ordre totalement cassé. Ensuite, vous avez cette intervention des dieux étranges qui empêche la compétition réellement de se dérouler, sans intervention de Zeus. Hein, si vous comparez, par exemple, au combat entre Achille et Hector, vous savez que c'est le moment où il y a la pesée. Hein, et ce n'est qu'après la pesée qu'Athéna peut intervenir dans le combat. Jusque-là, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit. Donc vous voyez que c'est beaucoup organisé, alors que là, c'est vraiment de l'arbitraire pur. On ne sait pas très bien pourquoi Apollon intervient, dit qu'il a un ressentiment contre Diomède, pourquoi Athéna décide elle aussi d'intervenir. Bon, ce n'est pas très très clair dans le texte. Et ensuite, vous avez un autre épisode, qui est l'affrontement entre Antiloque et Ménélas, où vous avez donc la question de la supposée métisse, un russe qui a fait l'objet du premier chapitre du livre de Jean-Pierre Vernant et Marcel de Tienne sur les Russes de l'intelligence. Bon, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, en réalité, quand vous regardez, vous n'avez pas à coup sûr la métisse, mais plutôt un débat pour savoir si c'est de la ruse, dolos, ou de la métisse. Et vous avez les deux termes qui sont utilisés, et Antiloque veillant à ne jamais avouer qu'il a fait montre de dolos, mais ne reconnaît qu'une lepté métisse, une légère intelligence. Bon. Quand on regarde l'événement, on voit qu'il ne triche pas. Ça, c'est très important, parce que vous avez quelqu'un qui est à la borne, donc il doit vérifier que tout se passe bien. Il n'y a pas de tricherie, et qu'en réalité, c'est une querelle de préséance, qui se résout, comme vous le savez, par le fait qu'Antiloque dit « Bon, allez, j'accepte ce que dit Ménélas, et je vous invite à regarder la distribution des prix, parce qu'elle est extrêmement intéressante, et là, elle dit beaucoup de comment ça se passe et pourquoi, en fait, cette institution est destinée à reproduire le monde social tel qu'il est et pas à organiser une lutte permanente entre les individus. Donc Diomède, je vous l'ai dit, quand il arrive, c'est classique, qu'il est le premier, il prend ce qu'il veut. Alors, bien sûr, il prend le prix du premier, mais en fait, c'est pas le prix du premier qui fait qu'il le prend, c'est parce qu'il le prend que c'est le prix du premier. Et ensuite, vous avez la question du prix du deuxième, que Antiloque revendique, puisque c'est lui qui arrive deuxième, et Achille dit, bah non, quand même, tu ne le mérites pas, on va le donner à Eumel, parce que lui, il a eu un accident, etc. Plus personne ne parle des dieux. C'est-à-dire, il ne dit pas, c'est parce que les dieux sont intervenus, etc. Les dieux ont disparu de la discussion. Mais Achille propose donc. Antiloque refuse, et ensuite, vous avez l'échange entre Ménélas et Antiloque. Et vous avez toute une distribution de prix qui, en fait, témoigne de comment fonctionne la valeur dans ce monde-là et dont le maître mot est l'incertitude sur la valeur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les prix qui ont la valeur, mais c'est celui qui vous le donne et dans la situation. Qui fait que, par exemple, lorsqu'Antiloque donne son prix de deuxième à Ménélas, que fait Ménélas en bon auditeur ou spectateur de films de mafieux? Il rend le prix, bien entendu, puisqu'il ne peut pas accepter que, en quelque sorte, Antiloque lui reconnaisse le moindre mérite. C'est lui qui reconnaît un mérite à Antiloque, donc il lui rend son prix. Mais naturellement, lorsqu'il lui rend son prix, ce n'est plus le prix du deuxième, c'est le prix de quelqu'un qui lui est obligé, comme on pourrait dire, quelqu'un qui a reconnu son autorité, et donc le même objet n'a pas la même valeur. Hein, on retrouve ici des thématiques largement développées par Louis Gernet dans son article sur la notion de valeur. Hein, donc je renvoie, c'est un texte classique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte pour moi? Il y a plusieurs choses. D'abord, donc, c'est cette intervention des dieux qui montre donc dans ce texte, il y a l'intervention des dieux, mais si vous lisez, il n'y a qu'une seule personne qui voit les dieux, c'est Laëde. Puisque vous avez une autre scène extrêmement intéressante, toujours à la cour de Char, où il y a une discussion entre Idoménée et Ajax, fils d'Oïlée. Et donc, ils débattent sur ce qui est en train de se passer. Et Idoménée dit « Je vois rien, je ne comprends pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu un accident, etc. Je vois rien. » C'est mentionné, alors que nous, juste avant, on a lu l'intervention des dieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dieux sont là, mais qu'a priori, tout le monde ne les voit pas ou tout le monde ne se sent pas légitime à dire qu'il les a vus. et qu'on va en discuter d'une autre manière et on va essayer de débattre pour savoir ce qu'il en est, c'est-à-dire quelles sont les positions. Donc vous avez, vous voyez, une sorte de monde social qui émerge, non pas sans ou contre les dieux, mais bien avec les dieux, mais une mise à distance d'une explication par les dieux qui conférerait à un individu trop de pouvoir. Même si dans le même temps, vous voyez bien que les Aèdes, sans doute, revendiquent cette éminence sociale d'être en contact ou de voir les dieux. Je vous renvoie évidemment à comment Hésiode fonde son autorité dans ses poèmes, etc. Donc vous voyez, vous avez un moment extrêmement important. Donc vous voyez que les dieux, on ne les voit pas. Et on voit aussi une autre caractéristique, c'est qu'on est dans un monde dans lequel la dynamique sociale semble être la discussion sur la légitimité des positions sociales. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde assez instable dans lequel la politique naît de la discussion des positions sociales. C'est-à-dire qui est qui, comme on pourrait dire, pourquoi es-tu roi ? Et je n'ai pas besoin de pousser bien loin pour vous dire que cette situation, on la retrouve bien entendu dans la querelle entre Achille et Agamemnon, puisque c'est exactement le sujet de la querelle, et on la retrouve aussi dans un autre épisode, dont je dis juste un mot, qui est bien sûr l'épisode de Tersite. Donc je passe cette magnifique course de char, et j'en arrive à Tersite, j'aurais le trouvé. Donc vous savez tout, c'est dans le livre 2. Donc je rappelle brièvement la place de Tersite dans... Tersite, donc toujours la même traduction de Pierre Judet de la Combe. Donc c'est un passage assez court. Hein. Vous avez donc dans le livre 2, donc vous voyez 213, je sais plus, enfin, bref, vous avez les références un peu ici. Alors pourquoi ce passage est intéressant ? Parce que vous avez un autre moment où l'ordre social peut être remis en cause hein, par Tersite, un personnage qui va dire à Agamemnon des choses qu'Achille lui a déjà dites, à la formule près. C'est les mêmes mots, les mêmes phrases, etc. Et qu'est-ce que ça montre, bien sûr ? C'est que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas le faire. Donc vous avez un frein, disons, à la politique au sens où nous l'entendons, nous, à savoir que tout le monde, au sein d'un groupe pourtant constitué, pourtant appelé démos, tout le monde n'est pas également légitime à prendre la parole pour dire ce qu'il en est du monde social, quelles sont les positions sociales, etc. Le cercle est restreint à ceux qui portent le sceptre. Vous savez que dans le camp des Achéens, c'est David Bouvier qui l'a montré il y a longtemps, il n'y a qu'un seul sceptre. Et ce n'est pas un hasard si, quand Tersite parle, nous savons, parce que c'est dit dans le texte, que celui qui a le sceptre au moment où Tersite parle, c'est Ulysse, et qui d'ailleurs va le frapper avec le sceptre. Et c'est un passage très très intéressant parce qu'il montre la fragilité de ce monde. Et la fragilité de ce monde, c'est qu'effectivement, Tersite aurait pu gagner. C'est vraiment apparent dans le texte où on dit que les Achéens commencent à rire avec Tersite, c'est-à-dire à ne plus respecter Agamemnon, et c'est Ulysse qui ramène tout le monde. Et à la fin, il a une formule assez étrange. Alors, c'est peut-être là où je ne vais pas forcément être d'accord avec ce qui m'arrive quasiment jamais avec la traduction de Pierre Judet de la Combe. Hein, il dit « Ainsi parlait la foule ». C'est censé dire que désormais la foule est d'accord avec Ulysse et que Tersite s'est terminé. Sauf que quand on regarde dans le grec, on a non pas démos, pourtant on trouve ça souvent chez Homère, je vous renvoie au livre de Marie-Joséphine Verlings sur le sujet, mais on y trouve plétus. Et plétus, ça renvoie plutôt, malgré tout, à l'idée du grand nombre, du plus grand nombre. Alors c'est pas l'idée de la majorité, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on a l'impression qu'on garde dans le grec l'idée que tout le monde n'a pas spontanément été d'accord avec Ulysse, que certains étaient tentés de suivre Tersite, mais bon, finalement, l'épisode est terminé. Donc, vous voyez, vous avez à la fois un élément d'instabilité, mais aussi un autre élément, un autre acteur qui intervient, qui est le démos, qui est au fond toujours une forme de dernière instance, celui qui, par son inaction ou son action, il rit, etc., il s'en va vers les vaisseaux, qui intervient. Alors, pour finir, on va juste regarder, maintenant, on va aller regarder un petit peu Hésiode, et je voulais vous montrer un texte incroyable, de mon point de vue, qui s'appelle donc l'hymne à Hécate, hein, c'est à l'intérieur de la Théogonie, et qui est c'est un hymne passionnant, et qui, le plus souvent, n'est pas étudié par les historiens qui ne font pas l'histoire de la religion. C'est-à-dire qu'il est mis de côté. Pourtant, il contient, comme on va le voir, un extraordinaire résumé des activités humaines. Alors, d'un mot, je rappelle vite ce qu'il en est d'Hécate, avant de regarder un peu la traduction. Donc, Hécate, en fait, est dans la structure même de la Théogonie, et par sa généalogie, elle est mise en parallèle avec Prométhée. Hein, donc Hécate, elle contribue à penser la répartition des honneurs entre les hommes et les humains et les divinités. Hein, en fait, dans la structure, vous avez Hécate, la naissance de Zeus, et ensuite Prométhée. Hein, et la naissance de Zeus, comme vous le savez, c'est vraiment le centre de la théogonie, puisque c'est l'explication de l'ordre, hein, pourquoi il y a l'ordre chez les dieux. Pourquoi Hécate est particulièrement intéressante ? Parce que Hécate, nous dit Hésiode, elle appartient aux deux mondes. C'est-à-dire elle appartient à l'ancien monde, celui des titans, où il y avait eu un premier partage, et elle appartient au deuxième monde, ou plutôt au second monde, puisqu'il n'y aura pas de troisième, celui de Zeus, qu'il a relégitimé en lui distribuant des timaï. Mais ce qui est évidemment passionnant, c'est que, alors vous avez le texte ici qui commence, hein, conçu Hécate, que Zeus, fils de Cronos, etc. Donc évidemment, Astérix, ça nous permet de la reconnecter généalogiquement, hein, donc de la rattacher au tyran, et surtout à Gaïa et à Uranos. Donc elle est vraiment au tout début, elle est au début de l'histoire. Et sans surprise, elle va avoir, vous voyez, de tous les enfants, on le voit un petit peu ici, de terre et de ciel, qui ont obtenu des honneurs en partage. Bon, voilà, donc on lui a gardé ça, et ensuite Zeus lui a donné d'autres... D'autres honneurs, donc elle est la seule à avoir partagé les deux, hein, puisque comme vous le savez, les titans y perdent et ils sont envoyés dans le Tartare, donc elle est la seule divinité à témoigner de cet ordre ancien. C'est sa première caractéristique. Et la deuxième, c'est qu'elle échappe au partage originel entre la terre, la ciel, la mer, hein, qui est le partage fondateur, hein, évidemment, autour de Zeus, puisqu'elle a les trois, elle intervient sur les trois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que son domaine d'intervention, évidemment, ce ne sont pas les dieux, mais ce sont les humains. Et vous avez dans ce texte, donc on est invité à sacrifier à Hécate à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, et vous voyez, alors je ne sais pas si on le voit ici, voilà, à peu près ici, hein, à qui elle veut largement, elle accorde son secours, veillant à ses côtés. Au tribunal, elle siège à côté des rois révérés. À l'assemblée, au milieu du peuple, elle fait briller qui elle veut, assemblée du peuple. Quand la lutte meurtrière, la guerre, les cavaliers, l'élevage, les concours, vous avez là une sorte de série d'activités humaines qui définissent au fond la sphère des actions humaines, sur laquelle vous voyez que les divinités peuvent intervenir, mais leur intervention est toujours particulière, puisqu'elle est interprétée comme une forme d'arbitraire. Elle peut intervenir, on peut lui demander, mais on n'a aucune assurance, et en tout cas, il semble que personne, sinon a posteriori, ne peut véritablement se prévaloir de son action à l'avance. Donc comment comprendre cette place d'Hécate ? Eh bien, on peut la comprendre comme justement une articulation entre l'ordre et le désordre qui fonde la conception du cosmos. Des Grecs. L'ordre, c'est celui de Zeus qui a été instauré. Hein, c'est pourquoi il y a une dikée et pas deux. Et vous savez que cette dikée s'impose à Zeus. Hein, je n'ai plus la référence du texte, mais vous savez que Zeus explique quelque part dans l'Iliade que de toute façon, les Troyens ne peuvent pas gagner puisqu'ils n'ont pas respecté l'hospitalité, puisque Paris a enlevé Hélène, et rien qu'à cause de ça, ils doivent perdre. Donc la question est de savoir comment ils doivent perdre, est-ce qu'on va tous les détruire, ou etc. Mais leur faute ne relève pas du jugement de Zeus. De même, je vous ai évoqué tout à l'heure la pesée célèbre pour savoir si c'était la fin d'Hector, Zeus pèse. Il ne décide pas que c'est terminé. Donc vous voyez qu'on a l'impression que l'ordre s'impose, y compris aux dieux. Mais vous voyez le paradoxe. Comment expliquer l'historicité dans laquelle les êtres humains sont pris si j'ai un ordre et un ordre des dieux ? Je dois donc instaurer, à partir de l'ordre divin, une forme de désordre dans le monde des humains qui n'existe que parce qu'il est borné par l'ordre divin. C'est-à-dire, il y a bien une justice, on ne va pas nulle part, tout n'est pas possible, etc. Mais il y a une incertitude fondatrice parce que personne ne peut être sûr de communiquer directement avec les humains. Raison pour laquelle il est à la fois fondamental de communiquer avec le divin, comme ça a été rappelé tout à l'heure par Yossine Bloch, avec le sacrifice et tous les rituels qui visent à maintenir le lien avec les divinités, puisqu'ils sont les garants, etc. Mais l'ordre, chez les humains, il est à déterminer par d'autres humains. Hein, donc vous voyez qu'il y a une mise en relation des deux. Ce n'est donc pas une exclusion au sens strict, mais plutôt, vous le voyez, quelque chose qui, au fond, relève, sinon d'une dialectique, du moins d'une articulation fine qui a pu changer. Moi, je n'ai pas prétention de rendre compte ici de tout ce qui s'est passé pendant des siècles, mais d'essayer de comprendre comment, dans Homère et Hésiode, on trouve dans les croyances, dans les manières de penser le cosmos, les origines des dynamiques sociales qui vont aboutir à la politique telle que nous la définissons ordinairement et la démocratie. Puisque vous voyez que ce qui va être fondateur de la politique, c'est l'incertitude. Et c'est l'incertitude sur le sens du monde, même si on sait qu'il y en a un, donc il faut bien des dieux, parce que s'il n'y a pas de dieux, alors le monde n'a pas de sens, donc à quoi bon faire de la politique ? La raison du plus fort peut l'emporter. Donc la politique, elle naît de ce bornage déterminant qui fait qu'il y a des dieux, et de l'incertitude sur ce que veulent les dieux, ce que voudraient les dieux, ce qu'auraient décidé les dieux, avec en plus l'idée que la dikée est peut-être déjà là, avant même que Zeus soit là. Hein, pour voir cette idée que la dikée est avant Zeus, je vous renvoie au mythe des races, hein, puisque vous avez dans la race d'argent, alors même que Zeus, normalement, n'est pas encore né dans la généalogie de divinité, il intervient quand même à la fin pour les supprimer, hein, donc comme si l'ordre était toujours là avant même que Zeus ne l'instaure. C'est-à-dire, on n'échappe pas à l'ordre des divinités. Alors, essayons d'un mot de résumer. Donc, Vous voyez que cette conception du cosmos et la conception de l'ordre chez les dieux va définir un territoire pour les êtres humains à partir dans lequel la politique va pouvoir exister et se séparer. Les deux éléments qui paraissent en jeu et en articulation sont la politique d'un côté et l'économie. Pourquoi ? Parce que seuls les êtres humains ont à produire leur bios, hein, c'est dit évidemment souvent dans les travaux et les jours, et donc comme ils doivent produire leur bios, eh bien, ça relève d'une activité humaine, raison pour laquelle les dieux ne sont pas dans l'économie, mais c'est une affaire d'être humain. Vous voyez la conséquence de ça ? Ça veut dire que vous ne devez pas vivre de prélèvements sur les autres. Vous avez un article de Nathalie Assan-Libé dans la RA de 2015, qui est extraordinaire, qui s'appelle « Errance guerrière et mendicité dans l'Odyssée », et qui vous montre comment, dans l'Odyssée, le comportement qui relèverait pour nous du don contre don est associé au vocabulaire de la mendicité. C'est-à-dire quand Ulysse dit ben « voilà, je reçois des cadeaux », etc., le vocabulaire utilisé est le même que celui qu'on utilise pour les mendiants. Je ne fais pas la liste ici, mais c'est la même chose. Témoin que ce comportement relève du passé révolu, d'un autre monde, celui des demi-dieux. C'est que l'expression n'existe qu'une seule fois dans Homère, au livre 12, hein, au moment où est écrit le mur des Achéens. Et quoi ? La disparition des fondations même du mur des Achéens, de façon à ce qu'il ne reste plus rien de ce monde d'avant. Il doit être disparu. C'est une des rares références qu'Homère fait au présent, hein, puisqu'il dit, c'est la preuve qu'il parle d'un autre monde, hein, qu'il est à l'extérieur, que ce monde a disparu. Donc vous voyez qu'il y a donc conjointement politique et économie, et que la question suivante qui me semble intervenir et qui va être réglée plutôt, disons, à 7e, 6e et sans doute aussi 5e siècle, c'est la question du lien entre la délibération et la position sociale qu'on peut revendiquer à partir de ce qu'on produit économiquement. Et donc la question politique majeure va être celle, et ça a été d'ailleurs évoqué par Jocelyne Bloch tout à l'heure, de la stabilisation de la définition de la communauté. Or, pour stabiliser la définition de la communauté, on a besoin de quelque chose qui mesure la position sociale, qui ne soit pas reconduite à un débat infini pour savoir qui est le meilleur. Hein, qui, vous l'avez vu, est toujours une menace potentielle sur la cohésion de l'ordre. Hein, je vous rappelle que les deux premiers ou trois premiers vers de l'Iliade commencent par évoquer les conséquences de la colère d'Achille sur qui ? Sur les Achéens. Hein, ce n'est pas juste pour lui, ou etc. Les conséquences sont les désastres incroyables sur les Achéens. Hein, autrement dit, les désordres qui se passent chez les basileïs, chez les puissants, ont un effet direct sur la vie du groupe, raison pour laquelle nous devons essayer d'organiser tout cela. Telle est donc, pour moi, vous le voyez, la dynamique à l'origine de la naissance de la politique, une dynamique qui trouve son origine dans une nouvelle conception du cosmos que développent les poèmes homériques et hésiodiques, une dynamique dans laquelle les divinités doivent avoir toute leur place. Merci.